base solaire, Frédéric Lett, à l'Observatoire Royal de Belgique. Vous y gérez le centre mondial SILSO. Vous nous expliquerez les travaux que vous y menez, mais on peut dire en résumé qu'ils sont en effet axés sur les taches solaires et sur la reconstruction de l'activité solaire à l'échelle des siècles.
Oui, plus précisément, en fait, on utilise l'observation visuelle des taches solaires et le comptage des taches, qui est un processus qui a commencé bien avant même l'invention de la photographie, ce qui permet justement d'avoir des données couvrant plusieurs siècles. En fait, depuis l'invention du télescope, un des premiers observateurs qui a fourni ce genre de données, c'est Galilée lui-même, et puis directement d'autres observateurs ont suivi. Et donc ça nous donne un fil conducteur ininterrompu jusqu'à l'époque actuelle. Et actuellement, on poursuit ce genre d'observation en parallèle avec toutes les technologies évidemment beaucoup plus récentes par un réseau mondial de 88 stations actuellement qui nous fournissent ces données que nous traitons statistiquement de manière à prolonger cette série. Et là, l'enjeu critique, c'est que les nombres qu'on sort actuellement sont totalement comparables à ceux des siècles passés, de telle manière à pouvoir vraiment quantifier et comparer le niveau d'activité solaire actuel avec celui qui régnait il y a plusieurs siècles. Mm-hmm.
Alors, Frédéric Lett, vous consacrez littéralement votre vie professionnelle, vos recherches, vos travaux au soleil. Depuis vos 14 ans, vous n'avez aucun doute, vous êtes et vous serez et vous resterez astrophysicien.
Ah oui, absolument. Même si au début, quand j'ai commencé comme adolescent, évidemment, ce qui me fascinait, c'était les étoiles, les galaxies, etc. Et c'est plus tard, lors de mes études à l'Université libre de Bruxelles, que, au contact du professeur André Kukkelenberg, qui était physicien solaire à l'Observatoire, que j'ai découvert ce thème-là. Et là, je me suis rendu compte de la richesse du sujet, parce que même si c'est un objet unique en astrophysique, le fait qu'on soit à proximité nous permet d'étudier une quantité de détails dans tous les phénomènes qui se produisent à la surface et aussi à l'intérieur du Soleil, parce que justement, à cette époque-là, aussi quand j'ai commencé mon doctorat, commençait une technique qui s'appelle l'hélioséismologie, et qui était la première fenêtre vers l'intérieur du Soleil.
Alors, vous avez déplacé, on a bien compris, votre intérêt pour les étoiles et donc le ciel de nuit vers l'astre du jour, et vous êtes l'auteur du livre « Le Soleil et nous » édité chez Favre. C'est un livre qui permet d'envisager le Soleil par toute une série de portes d'entrée, si je puis dire, sa structure, son fonctionnement interne, et aussi les effets de ses éjections magnétiques sur tout le système solaire, y compris évidemment sur notre planète, avec laquelle le Soleil, vous venez de le dire, a un lien privilégié, un lien étroit.
En fait, nous sommes tellement proches du Soleil que nous sommes en permanence soumis à son rayonnement, qui d'ailleurs permet la vie sur Terre, et aussi un flux de particules continu qu'on appelle le vent solaire, et qui s'étend jusqu'à plus de 100 fois en fait, la distance Soleil-Terre. Et donc, on est profondément inclus dans cette sphère d'influence du Soleil. Donc, c'est l'aspect particulier qu'a le Soleil aussi en astrophysique, où bien sûr, on étudie l'univers pour comprendre essentiellement d'où on vient, comment on est arrivé au monde tel qu'il est actuellement. Dans le cas du Soleil, c'est vraiment s'intéresser à un objet qui a un impact direct. Et à courte échéance, la lumière met 8 minutes 19 secondes pour nous parvenir du Soleil, donc c'est vraiment de l'instantané, et donc on est vraiment dans l'intimité d'une étoile.
Alors, votre livre, je précise qu'il est destiné à plusieurs publics, finalement, en même temps, les scientifiques pointus qui ont déjà des prérequis, mais aussi à tous ceux et toutes celles qui ne sont pas spécialistes, qui ne sont pas des physiciens solaires ou qui ne sont pas des scientifiques, mais qui veulent comprendre comment fonctionne le Soleil, depuis quand et jusqu'à quand. Et cette volonté de vous adresser à la fois à vos pairs, mais aussi au plus grand nombre, ça demande évidemment des adaptations, des contorsions, si on peut dire, sur le plan d'écriture, et vous les avez intégrés en formulant des résumés encadrés très accessibles, ce qui fait qu'on n'est jamais largué dans votre livre.
En fait, je m'adresse à un lectorat qui passe spécialement de physique solaire ou d'astrophysique, Mais par exemple, des scientifiques d'autres domaines, en climatologie, en biologie, etc., vu que bon, le soleil a un rôle à jouer dans tous ces domaines, et donc pour ces non-spécialistes, mais aussi pour monsieur tout le monde, j'ai pensé que c'était important à la fois de faire connaître le soleil, donc il y a toute une série de chapitres qui sont consacrés à expliquer comment ça fonctionne, quels sont les phénomènes d'activité, etc. Et puis, effectivement, toute une série de chapitres qui concernent les liens entre le Soleil et nous. Donc, il y a la météorologie spatiale, il y a la question de l'énergie, il y a toute une série de domaines. Je commence même par parler des mythes solaires, vu que très tôt dans l'humanité, il y a eu cette prise de conscience du rôle central du Soleil dans la vie. Ici sur Terre.
Alors justement, Frédéric Led, ce livre sur le soleil, il parle aussi de vous d'une certaine façon, puisque quel que soit le sujet que vous développez dans les différents chapitres, vous le raccrochez à un moment de votre vie ou de votre carrière, un peu comme un préambule à chaque chapitre. C'est aussi une façon de se placer à taille humaine en regard du soleil, non ?
Oui. Au fil des années, dans mes interactions avec le public en général, j'ai remarqué que revenait souvent la question, oui, mais votre travail là tous les jours, ça se passe comment? Est-ce que vous travaillez avec des collègues étrangers? Est-ce que vous devez voyager, etc., partir en expédition? Et donc j'ai songé à rajouter cette dimension humaine pour donner un peu, presque une sensation de ce que c'est, vu que c'est chaque fois une sorte de petite nouvelle vécue sur le moment.
Oui, un récit.
Et bon, ben, il se fait que tout en restant sur ce même sujet pendant toute ma carrière, j'ai en fait baroudé un peu dans tous les sens, quoi. Donc, depuis le sommet des montagnes pour faire de la photométrie pendant mon doctorat, puis j'ai accompagné, puis dirigé des expéditions vers des éclipses totales de soleil, un peu aux quatre coins du monde. Événement très très particulier, très très marquant. Et puis je suis passé au spatial, première participation de l'observatoire, là c'était le Solar and Heliospheric Observatory, où pour l'instrument EIT, donc un télescope qui fait des images de la couronne dans l'extrême ultraviolet, donc cet instrument avait une forte participation belge, l'Observatoire Royal de Belgique, mais aussi le Centre Spatial de Liège. D'ailleurs, une collaboration qui continue encore à l'heure actuelle avec la sonde Solar Orbiter. Ici, maintenant, je travaille avec aussi des historiens, vu que maintenant, je m'occupe justement du cycle solaire à long terme. Et donc, c'est avec des collègues historiens, japonais, espagnols, etc., que je collabore pour retrouver ces documents anciens, donc encore un tout autre domaine que les centres de contrôle de la NASA, où j'ai passé un certain temps.
Bertrand Piccard, qui a fait le tour du monde à bord du Solar Impulse, signe la préface de votre livre et dès sa première phrase, il soulève le paradoxe du Soleil qui peut être perçu, écrit-il, autant comme une normalité évidente que comme un miracle incompréhensible. D'accord avec ça?
Oui, tout à fait, parce que le Soleil, bien sûr, il éclaire nos jours, il se lève tous les matins, tous les soirs, donc ça fait partie du décor. Et donc, simplement, la plupart du temps, on l'oublie. Or, en même temps, nous ne serions pas là, simplement, si le soleil n'était pas présent. Et donc, cette prise de conscience du rôle central du soleil, plus encore même à notre époque que même il y a 10 ou 20 ans, c'est vraiment quelque chose qu'on doit réacquérir, de comprendre ce rôle principal du soleil dans toute une série de problématiques et le fait qu'il soit là, c'est pas un décor passif, c'est un miracle permanent qui nous permet de vivre.
Alors à proximité évidemment, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on est littéralement collé à notre étoile, mais à une distance quand même idéale. D'autres planètes n'ont pas eu cette chance d'une certaine façon. Certaines sont trop proches et ce sont des déserts torrides, et d'autres elles sont trop éloignées et ce sont des déserts de glace. Nous on est juste pile bien.
Oui, si on peut dire. C'est sans doute pour ça que la Terre est devenue un havre idéal pour le développement de la vie depuis les premières formes des unicellulaires jusqu'à toute la diversité qu'on a actuellement. On s'en rend peut-être un peu plus compte maintenant avec toutes les exoplanètes qui ont été découvertes autour d'autres étoiles et où beaucoup de ces exoplanètes ne sont pas du tout dans une zone propice à la vie. Et donc, la distance qu'on a par rapport au Soleil, c'est à la fois une proximité, parce que si on compare même à l'étoile la plus proche qui est à 4 années-lumière par rapport à 8 minutes 19 secondes du Soleil, donc on mesure les abysses qu'il y a avant la première étoile, et en même temps, heureusement, 150 millions de kilomètres, ce qui, par rapport aux phénomènes extrêmement violents qui se passent à la surface du Soleil, les éruptions, etc., nous mettent à une distance confortable qui a fait que cette activité solaire, jusqu'à présent, n'a eu aucun effet destructeur au niveau de la Terre.
Mais on en parle parce qu'il y a quand même une menace, étant donné notre hyper-dépendance aujourd'hui aux technologies, à l'électricité. Il y a quand même une attention particulière à porter. Cela dit, Frédéric Leth, ce n'est pas par hasard que vous avez évidemment intitulé votre livre « Le Soleil et nous », parce qu'on lui doit tout au Soleil. Les autres planètes et le reste de l'univers ont certes été importants dans l'histoire lointaine de la Terre, mais il n'y en a rien de bien tangible dans notre quotidien, et surtout rien de comparable avec l'influence du Soleil.
On le sent, en fait, directement. Il n'y a pas si longtemps, avec la canicule, on sent l'apport de chaleur. Ça, c'est la chose la plus anciennement connue pour le Soleil. Mais en même temps, c'est un apport d'énergie qui fait fonctionner toute l'atmosphère terrestre, donc tout le système climatique. Ça, c'est le rayonnement solaire. Mais il y a également le flux de particules qui, en grande partie, est infléchi par la présence du champ magnétique terrestre qui crée une sorte de bulle, ce qu'on appelle la magnétosphère, et qui, heureusement, atténue la quantité de particules arrivant jusqu'au niveau de la Terre, mais pas dans tous les cas. Quand il y a des bouffées de particules, des sortes de bourrasques dans ce vent solaire de particules, là, le bouclier fléchit et des particules peuvent alors pénétrer et produire différentes perturbations perceptibles jusqu'au niveau du sol.
Alors le Soleil, il existait avant nous, il existera encore après. On parlera de son avenir et de sa fin tout à l'heure. Mais d'abord, en ce qui concerne son passé, il est né il y a 4 milliards et demi d'années. Donc finalement, c'est relativement récent par rapport à la formation de l'univers, 13 milliards et demi d'années. La vie sur Terre et le Soleil ont d'une certaine façon évolué en même temps, lentement, mais en même temps. Et quand on parle de la vie sur Terre, c'est pas de l'homme sur Terre qui arrive, lui, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard.
Oui, oui, dans le moins du dernier millième. Donc, depuis l'apparition de la vie qui date, donc si le Soleil et lui est né il y a 4 milliards et demi d'années, donc c'est il y a 3 milliards et demi d'années que les premières formes de vie des unicellulaires dans les océans sont apparues. Et ça a pris encore des milliards d'années jusque, donc avec finalement la vie qui est sortie des océans, donc il y a 1,5 milliard d'années à peu près. Et puis, c'est à peu près à 700 millions d'années qu'il y a véritablement une explosion de diversité de formes de vie avec les vertébrés, etc., et qui mène à la vie actuelle. Mais même cette partie-là, qui a mené au monde que nous connaissons avec la diversité de plantes, etc., ce n'est encore que les derniers pourcents du long cheminement de la formation de la vie. Donc la vie elle-même, en tant que processus, à une échelle de temps de milliards d'années, et donc est tout à fait commensurable avec la durée de vie des étoiles. Et donc le fait que le Soleil est une étoile finalement de masse assez faible, il y en a des beaucoup plus grosses, beaucoup plus spectaculaires, etc. Disons que le Soleil se cache dans le peloton, disons. Eh bien, c'est en fait idéal, parce que ces étoiles-là ont notamment une durée de vie très longue. Le Soleil, au total, va être stable pendant 9 milliards d'années. On est à peu près à mi-chemin. Et donc, c'est cette durée-là aussi qui a permis aux prémices de la vie de réellement, pleinement se développer et de donner toute la richesse qu'on a actuellement.
Et finalement, quoi que l'on sache actuellement et quoi que l'on apprendra sur le soleil dans le futur encore grâce aux recherches, nous n'aurons quand même jamais la moindre espèce de capacité d'intervention sur son fonctionnement. Donc dans tous les cas de figure, il faut que nous nous adaptions à lui.
Le gigantisme du Soleil est incroyable. Bon, rien que son diamètre, c'est 109 fois le diamètre de la Terre. Les énergies qui sont produites en son centre dépassent complètement, même si c'est pas la plus grosse des étoiles, déjà ça dépasse complètement ce qui peut se produire sur Terre. Donc le Soleil vit sa vie et nous devons l'accompagner.
La proximité de la Terre et du Soleil, Frédéric Klett, a un autre avantage, outre la vie et tout ce qu'on a dit, c'est qu'elle permet d'observer le Soleil en détail et de comprendre aussi les autres étoiles de l'univers. Et la matière solaire, vous dites dans votre livre, c'est un véritable laboratoire de physique. Autrement dit, elle a été faite pour vous, cette matière du Soleil.
Oui. Souvent, quand je parle de cet aspect-là, je décris le Soleil comme la pierre de Rosette de la physique stellaire, parce que c'est la seule étoile qui offre des détails de surface. Et donc, beaucoup de phénomènes se passant sur le Soleil se produisent sur toutes les autres étoiles, à d'autres échelles, à d'autres moments dans leur existence. Mais étant donné l'information très limitée qu'on a d'autres étoiles, où généralement on n'a qu'un flux total sur l'ensemble de l'étoile, et donc dans les variations, on ne peut pas distinguer d'où ça vient, est-ce que certaines structures défilent sur son disque, ou est-ce que certaines structures varient, mais lesquelles? Et donc le Soleil, où on voit ces phénomènes se produire là sous nos yeux, on a des images, on peut même en spectroscopie isoler des points particuliers du phénomène et donc déterminer quelle est la nature exacte, par exemple, de l'accélération de ces particules qui forment le vent solaire et stellaire. Et ça donne des clés qui permettent alors d'interpréter des informations beaucoup plus limitées d'autres étoiles. Il y a aussi un effet retour. C'est peut-être un peu asymétrique, mais évidemment, le Soleil n'est qu'un seul exemple par rapport aux milliards de milliards d'étoiles de l'univers. Et donc, en observant d'autres étoiles, on peut voir toute la diversité de comment le Soleil pourrait être autrement s'il avait une masse plus faible ou plus forte, etc., ou s'il était tout jeune ou beaucoup plus avancé en fin de vie. Et donc, là, ça permet de placer alors le Soleil dans un contexte plus général et notamment d'établir des scénarios de d'où il vient et justement comment il va finalement achever sa vie.
Alors ça, on en parlera tout à l'heure, de la façon dont il va achever sa vie, mais il y a un élément qu'il faut vraiment souligner, c'est que dans vos explications et puis dans votre livre aussi, on comprend ce qu'il y a de merveilleux dans cet astre, c'est-à-dire qu'entre le cœur du Soleil et la surface qui libère la lumière, il y a un univers entier de couches. Vous l'expliquez, vous le montrez aussi dans votre livre. Donc c'est plus qu'une structure, c'est une odyssée qui part de l'énergie centrale vers la surface.
Oui, et une odyssée qui paradoxalement commence par cette fournaise centrale où se produit la fusion solaire, mais qui est un phénomène tellement stable que ça se poursuit de manière contrôlée, très stable pendant des milliards d'années. Et c'est en fait dans la couche la plus extérieure, mais qui représente quand même 25% à peu près du rayon solaire, mais la partie la plus extérieure, où là, parce que la chaleur ne peut se dégager vers la surface que par des grands mouvements convectifs de la matière, que là on a une couche très dynamique qui évolue à l'échelle des mois. Là on n'est plus dans les milliards d'années, on est dans des échelles de temps qui correspondent à notre vie de tous les jours. Et c'est là que se trouve la machinerie, la dynamo comme on l'appelle, qui génère les champs magnétiques qui émergent à la surface et qui sont les producteurs de ce qu'on appelle l'activité solaire. Et donc aussi toute la variabilité du Soleil à l'échelle des minutes jusqu'au siècle.
Alors, nous l'avons dit en ouvrant l'émission, vous gérez à l'Observatoire Royal de Belgique le Centre Mondial SILSO, donc qui est dédié aux tâches solaires et à la reconstruction de l'activité solaire à l'échelle des siècles. Vous nous avez dit tout à l'heure, spontanément, pourquoi ces tâches solaires étaient intéressantes. Ce sont les marques les plus anciennement connues de l'activité du Soleil. Les plus petites font quand même, parce qu'on parle de tâches, les plus petites font 2000 km de diamètre, les plus grandes 50 000. Donc, on est déjà dans des détails assez conséquents.
Oui, la plus grosse tâche, on peut facilement engloutir 10 fois la Terre dedans.
Voilà.
C'est les proportions d'une étoile. Mm-hmm. Et il n'y a pas que leur dimension. Elles traduisent en fait l'intensité du champ magnétique qui perce la surface et qui provoque la formation des tâches, et où là c'est des milliers de fois l'intensité du champ magnétique terrestre, celui qui nous est familier, qui fait bouger l'aiguille de la boussole. Donc ce sont des champs magnétiques aussi qui ne sont reproduits que très difficilement dans certains accélérateurs de particules sur Terre. C'est notamment pour ça que, évidemment, les phénomènes qui se produisent dans ces régions actives, comme on les appelle, en surface du Soleil, qu'on a devant nous, offert à notre vue, un laboratoire de physique des plasmas qui, souvent, produit des conditions qu'on ne peut pas vraiment reproduire en laboratoire sur Terre.
Donc ces tâches solaires, elles sont de tailles différentes, mais elles correspondent toutes à des zones plus froides, des zones plus sombres, et témoignent, vous l'avez dit, de la présence de champs magnétiques extrêmement intenses. Elles apparaissent en groupe et elles évoluent, ces tâches. C'est le mouvement de ces tâches qui traverse le disque solaire qui a mis en évidence la rotation du Soleil, finalement.
La rotation du Soleil, oui, a été mise en évidence dès les premières observations télescopiques. Il a fallu un certain temps, même 2 siècles avant, Carrington fasse des observations suffisamment systématiques pour montrer qu'en plus, le Soleil n'a pas une rotation rigide, mais tourne plus rapidement à l'équateur qu'au pôle. C'est un fluide, le Soleil. Et en fait, on tient là l'un des ingrédients de cette machine qu'on appelle la dynamo solaire, qui génère les champs magnétiques. C'est à la fois une combinaison de la rotation